Actu SF, les podcasts.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les auteurs qui sont à la table? Oui. Alors, on va commencer par Roberto Zancar, qui est auteur de fantasy. D'ailleurs, ils sont tous auteurs de fantasy. Et qui a fait une série qui s'appelle Laura Noir. À côté, nous avons Estelle, qui est auteur de fantasy et de science-fiction. J'espère que vous avez assisté à l'atelier ce matin, parce que c'était de la balle. Et nous avons Stéphane, qui est aussi auteur de fantasy, puisque le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est la fantasy du scalpel à la truelle. Je vais leur passer le micro pour qu'ils se présentent eux-mêmes et qu'ils vous racontent un petit peu comment ils sont venus à la fantasy. Et on va démarrer aussi par une première approche, c'est une définition pour eux de ce qu'est la fantasy. On va sortir du carcan très scolaire, la fantasy c'est ça. Non, qu'est-ce que pour toi, Roberto, c'est la fantasy?
La fantasy, pour moi, c'est tout ce qui sort des lectures classiques. Donc, qui met fortement en œuvre l'imaginaire et la construction de mondes qui n'existent que virtuellement. Voilà. C'est très simple et ça regroupe tous les genres possibles et inimaginables. Vous m'entendez?
Oui. Alors, la question de la définition de la fantasy, si je peux faire un petit retour en arrière, c'est en fait l'un des sujets sur lesquels j'avais travaillé il y a, 20 ans. Oui, environ. Quand j'étais à la Sorbonne et que je faisais des mémoires sur le genre, et disons la définition grosso modo que j'avais trouvée à l'époque, où il y avait beaucoup moins de publications sur ce domaine qui me parlaient pas mal, c'était l'idée d'avoir un monde secondaire, en général avec du surnaturel et de la magie. Et bon, ça, je trouve que ça correspond à pas mal d'œuvres du genre. Maintenant, de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance, ce que j'aime bien dans la fantasy, c'est j'ai l'impression surtout que la fantasy, c'est fait de toutes les œuvres que les auteurs et surtout les lecteurs mettent dedans, en fait. Et que les frontières de la fantasy, elles sont mouvantes, elles sont changeantes. Et que finalement, en fait, c'est vous, les lecteurs, qui faites les frontières de la fantasy en y mettant des œuvres dedans. Vous dites, ça, c'est des œuvres de fantasy, on les aime pour ça. Et c'est tout ça qui va devenir le territoire de la fantasy. Et ce qui fait qu'il est de plus en plus protéiforme, de plus en plus large, de plus en plus libre. Et c'est cool. Stéphane, pour toi, de la truelle au scalpel ou du scalpel à la truelle?
Alors, le scalpel, pas vraiment, parce que dans la forêt, ils n'ont pas de scalpel. Donc, pour les opérations de chirurgie, ils font avec un petit couteau de voyage, un petit couteau à viande. Ils ont quelques autres outils avec, mais enfin voilà, pour les extractions de flèches, etc. En tout cas, on ne fait pas la truelle. Mais voilà, ils n'ont pas de scalpel. Donc c'est vrai que j'aime bien mettre des petites opérations de chirurgie, ça fait partie aussi de la fantasy. C'est le rendre un monde réaliste, le documenter à partir du Moyen-Âge malgré tout. Mais pour moi, ce qui fait l'essence de la fantasy, et j'ai conscience que c'est vraiment ma définition personnelle, c'est le voyage. C'est vraiment voyager, voyager ailleurs, et dans le voyage, c'est aussi souvent les rencontres inattendues et les choses accessoires qui peuvent devenir, qui peuvent laisser des souvenirs les plus merveilleux. C'est pour ça que personnellement, je m'autorise à rompre avec la bienséance scénaristique qui veut que fusil de Tchekhov et tout ça, tout élément doit servir, qu'il faut épurer le scénario, etc. Je trouve qu'on peut avoir un peu de gras et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis c'est aussi une façon de renouer avec ses racines. La science-fiction, bon, l'homme évolue beaucoup, hein, on se transforme avec les innovations technologiques, on bouge, on change très fort. Et la science-fiction explore ce devenir, cette modification de l'humain, le fait qu'on ait une espérance de vie qui a doublé, qu'on ait une mortalité infantile qui a drastiquement diminué, ça a fort changé même la nature de l'être humain, la façon dont on appréhende nos vies. Donc, la science-fiction, elle va voir un petit peu ce chemin qui est en amont, qui est devant nous, qui est en aval et qu'on ne connaît pas. Et plus on change, plus on a besoin de se reconnecter à ses racines. Je pense que la fantasy, ça participe aussi du besoin de se reconnecter à l'époque où on ne maîtrisait pas la nature, où on avait peur des fauves, où on avait peur de la nuit, où le monde s'expliquait par la pensée magique et une sorte de recherche de notre enfance en tant qu'humanité fantasmée, qui est un peu la contrepartie de la science-fiction, voire même peut-être un apaisement par rapport aux questions de la science-fiction. Et puis quand on voit d'où on vient, on voit mieux où on va.
Oui, voilà, ouais, si je peux...
Bon, en fait, je reviens sur ce qu'a dit Stéphane parce que je trouve que ça correspond à la fois hyper bien à ce qu'il y a de génial dans tes bouquins, qui sont hyper immersifs au passage. C'est vraiment super immersif, c'est écrit Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cool. Et il y a aussi beaucoup de voyages dans ce que j'écris. Après, par contre, pour moi, ce que j'aime dans la fantaisie, c'est justement parce que ce n'est pas du tout apaisé, au contraire. Et même, il va y avoir souvent plus de positif, plus de côté solaire dans ma SF que dans ma fantaisie, parce que justement, la fantaisie, pour moi, c'est ce qui va connecter avec les... Voilà, c'est ce qu'a les pieds dans la boue. Je fantasme pas du tout un passé, parce qu'il y a rien à... Enfin, parce que le passé, c'était dur, c'était sale. Il y avait aussi plein de choses, évidemment, donc intéressantes. Il y avait tous les appels à la liberté, tout ce qui se fomentait dans les consciences, tout ce qui fermentait dans les consciences. Donc il y avait plein de choses hyper intéressantes qui ont contribué à forger pas mal de choses où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais voilà, je veux... Pour moi, en tout cas, dans la fantaisie, je ne vais pas chercher un apaisement, je ne vais pas chercher à me reconnecter avec un passé idéal ou avec quelque chose. Je vais plutôt chercher justement à voir comment, dans un monde qui peut être dur, qui peut être âpre, les hommes vont trouver quand même de quoi rêver, de quoi survivre, de quoi aller plus loin. Et finalement, les grands horizons, plus, comment dire, plus apaisés, plus positifs, je vais les trouver plutôt dans la SF, en fait. Mais j'aime bien justement être dérangée par la fantaisie, j'aime bien que ça soit pas forcément toujours un joli voyage tranquille, mais au contraire, voilà, un endroit où vraiment on s'en prend plein la figure et quand même on continue, et quand même on se relève, et quand même on va de l'avant.
Pour moi, en fait, tu vois, j'ai pas la même notion de la fantaisie, parce que pour moi, la fantaisie, au départ, c'était d'abord le merveilleux. Donc, tu vois, c'est aux antipodes de ta conception. Et je vais trouver dans la SF, dans des mondes plus durs, justement ces notions que tu prêtes à la fantaisie. Voilà. Et quand j'ai lu le titre de cette table ronde, la fantaisie au scalpel ou à la truelle, j'ai pas pensé qu'on définissait le genre de la fantaisie, mais qu'on était dans la fantaisie et dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on qualifiait de scalpel et qu'est-ce qu'on pouvait qualifier de à la truelle. Donc moi, schématiquement, je me suis dit, dans un récit de fantaisie, qu'est-ce que je vais appliquer comme recette?
C'était ma deuxième question.
Ah, ben voilà,
tu vois, bravo,
comme c'est amené.
C'est vous qui s'auto-alimente.
C'est ça, c'était génial, en fait, je vais me mettre dans la salle, je vais vous laisser travailler. Donc c'était ma deuxième question, c'était qu'effectivement, pour vous, la fantaisie, est-ce qu'on met des livres qui sont que côté scalpel, c'est-à-dire qui vont être ciselés, fins, avec vraiment un travail épuré, ou est-ce qu'on va y aller gros bourrin, ou est-ce qu'on peut travailler sur les deux? Pour vous?
Oui, pour moi, en fait, un roman, d'ailleurs, c'est d'une manière générale, que ce soit dans les littératures de l'imaginaire ou dans la littérature classique, un roman est construit sur les personnages. Donc, je pense qu'au niveau du personnage, si on veut construire une image, un vrai récit basé sur l'humain, ça va être au scalpel. On va ciseler le personnage jusqu'à le rendre présent, prégnant. Et dans ce sens-là, la fantaisie au scalpel, oui, systématiquement. En revanche, la fantaisie appelle aussi, de temps en temps, de la fantaisie de combat, de rixes, de situations qui sont plus contrastées. Et donc, là, ça sera à la truelle. On connaît tous des récits où tous les récits épiques appuie sur des combats. Donc, à mon avis, c'est vraiment un mélange des deux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je retiens que dans tes bouquins, il y a des scènes de combat à la truelle et j'ai vraiment très envie de lire ça.
Bah, disons, merci Stéphane. Ouais, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, je suis à 200% avec toi sur les personnages parce que c'est vraiment, pour moi aussi, qui entraîne un récit, c'est... Avant tout, j'ai des personnages dans la tête, ils veulent vivre, ils veulent sortir, et c'est pour ça que j'écris. Et par moments, les personnages, ils m'entraident là où je n'avais pas prévu, et puis ben, je dois les suivre. Voilà, il faut que je les suive, et c'est mieux de les suivre. Et en plus, en général, ils ont raison, et nous, on a tort. Vraiment, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a, indépendamment du genre, en fait, dans ce que j'écris, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux pôles qui me parlent. C'est d'avoir un côté vraiment très concret, très incarné, très crédible. J'ai besoin d'y croire, aussi bien que ce soit dans les réactions des personnages que dans l'univers, qu'il ait une vraie consistance. Le côté pied dans la boue dont je parlais tout à l'heure. Les univers qui sont tout jolis, tout éthérés, tout ça, j'ai du mal. Par exemple, j'ai du mal avec une partie du steampunk qui se passe que dans la bonne société, avec des super belles robes, des super beaux bals et tout, parce que ça nie toute une partie du monde. Tout à l'heure, je parlais de Florian Soulas, lisez Florian, c'est super. Et l'un des trucs qui marque dans Rouille, par exemple, dans une partie du steampunk français, par rapport à beaucoup de steampunk anglo-saxon, c'est qu'il ne nie pas la dureté de la réalité du 19e siècle, et que mine de rien, les gens qui avaient des belles robes et des beaux bals sous des beaux lustres et tout, c'est parce que d'un autre côté, ils étaient en train d'en écraser d'autres, qui étaient en train de crever dans des mines ou dans des bas quartiers de Paris, quoi. Et voilà, c'est par exemple, c'est ce dont j'ai besoin aussi dans les livres que j'écris et dans les livres que j'aime, c'est qu'on ne nie pas cet aspect-là de l'humanité, que c'est vraiment complexe, et que oui, il y a toujours une partie qui a les pieds dans la boue. Et puis, c'est une citation d'Oscar Wilde, je crois que j'aime bien, c'est tous les hommes marchent dans la boue, mais certains regardent les étoiles. Après, il faut qu'il y ait de l'horizon. Il faut qu'il y ait justement ces rêves d'horizon, ces rêves au-dessus de nos têtes, ces étoiles. En tout cas, je pense en ce que j'écris, voilà, et c'est des personnages qui sont souvent entre les deux pôles, qui ont les pieds dans la boue, mais qui, au moins pour certains, vont rêver d'autres choses, rêver d'horizon, ou apprendre à rêver d'horizon, parce qu'au départ, ils n'ont pas forcément l'idée. Et regarder vers les étoiles, regarder au-delà de l'océan, regarder vers un ailleurs où on peut être un peu plus libre, voilà, qui est aussi ce rêve-là.
Je rejoins ça à 100%. Je lis de la fantasy depuis que je suis gosse, j'ai un peu 40 ans, et j'ai envie de lire quelque chose qui me paraît crédible. Bon, en plus, j'ai fait des études d'histoire, donc on ne me la fait pas sur le monde de carton-pâte. J'ai envie que ça soit quelque chose auquel je peux croire. Et même la magie, même le surnaturel, pour y croire, j'ai besoin d'avoir un monde de base qui soit vraiment réaliste. Donc,
et construit,
et qui tienne la route. Et donc, j'ai besoin de me documenter fortement pour rendre mon monde crédible, que les modes de vie soient crédibles. Et c'est d'éviter d'avoir un monde qui soit un peu, vous savez, comme les films qui parlent du Moyen-Âge dans les années 30, 40, 50, où on voit des Rolfines super bien coiffées avec des coiffures de l'époque et qui portent un costume avec une cotte de maille en toque. Non, ça n'a pas ressemblé au XXIe siècle, ça doit vraiment être une époque différente et ça implique de bien comprendre les modes de vie, les conditions matérielles, la façon dont on s'éclaire, dont on se chauffe, dont on s'habille, dont on se bat, casser l'image romantique des combats médiévaux où on se dit « Ah, à cette époque-là, au moins, c'était la valeur de l'homme qui comptait, c'était pas l'équipement. » Allez-y pour passer une armure de plate, je vous en prie, c'est imperçable. Si vous ne rentrez pas dans le défaut, ça passe pas. Donc l'équipement a beaucoup d'importance. J'ai d'ailleurs une scène où un archer n'a pas la bonne flèche, il passe pas les haubères, il demande une flèche à son copain qui a mis mon matos, parce que sinon ça passe pas, ça a vraiment l'importance. Même chose, j'ai parlé des opérations de chirurgie, hein, il faut que ça soit réaliste, et ça rend la magie d'autant plus... Quand on croit au monde de base, on a envie de croire à la magie aussi, parce qu'on croit déjà au reste de l'histoire. Si le reste du monde est déjà en toc, bon, ok. Voilà, la licorne, elle peut faire des arcs-en-ciel, pas de problème, quoi. Et puis même chose avec les gens du peuple, c'est que trop souvent on a une fantaisie qui s'est cantonnée à mettre en scène des élus, des princes, des princesses, des ducs, et des grands magiciens et des grands héros. Et pour moi, ce qui rend le monde vivant, c'est aussi la mise en scène du peuple, et de ses luttes et de ses combats. Je suis content quand je me rends compte que des personnages humbles, des palefreniers, des bateliers, j'ai la chance évidemment de raconter l'histoire d'une remontée du fleuve dans une forêt sauvage où les bateliers peuvent plus facilement prendre l'avant-plan. Un merveilleux archétype de fantasy, jamais utilisé, ou presque, le batelier, il est très rare. Les marins, Estelle aime bien aussi, je pense, mais c'est des archétypes qui ne sont pas souvent utilisés, pourtant c'est des aventuriers par essence, quoi. Et puis de parler aussi de ces bas-fonds des villes, de parler par exemple de la condition des femmes ou des minorités sexuelles, des marginaux, des exclus, de parler de la prostitution, mais de ne pas en parler de façon romantique. Bon, j'ai une courtisane dans mon texte, c'est pas quelque... ça a déjà été utilisé comme personnage, mais c'est souvent un peu romantisé. J'ai envie aussi de montrer les côtés sordides et d'alterner le sombre et le merveilleux, et je pense que les étoiles sont d'autant plus visibles quand on sent bien la boue dans laquelle on marche.
Oui, je peux rebondir.
J'allais juste dire que le livre pour moi qui reste le phare, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux, tu en parlais tout à l'heure, et le personnage principal c'est un tout petit bébé, c'est un tout petit hobbit, et c'est aussi certainement pour ça que ce livre est si fort.
Oui, voilà.
Et qui reste un peu plus.
C'est complètement aux origines de la fantasy, il y a quand même le hobbit, quoi. Et pour oublier ça. Et juste pour rebondir très brièvement sur ce que disait Stéphane, prendre brièvement. Oui, alors je suis à 200% d'accord sur la documentation, évidemment. Sur le fait de.
En fait, je vais définitivement me mettre dans le public parce que c'était ma troisième question.
Waouh! Non mais en fait, tu vois, c'est tellement bien préparé que les questions, elles sont là d'elles-mêmes, quoi. C'est ça qui est bon. Donc vas-y, fais la question, comme ça je parle de documentation.
Et alors, l'univers autour, les descriptions, pour vous, ça rentre dans quelle case ?
Alors, donc, l'univers autour, il se construit aussi autant que les personnages, avec pas mal de documentation, effectivement. Je rejoins complètement Stéphane là-dessus. Il y a effectivement eu des grosses impasses de Moyen-Âge romantisé. Maintenant, il y a quand même une impasse aussi, j'ai l'impression, de nos jours, en tout cas, une direction qui ne me convainc pas entièrement, dans laquelle une partie de la fantasy, notamment anglo-saxonne, s'engouffre avec un peu trop de délices. C'est aussi l'idée de peindre des époques qui font référence à des époques anciennes comme uniquement mauvaises, méchantes, pas belles, ah là là, tout ça. Et par exemple aussi, sur la figure des femmes, alors oui, la condition des femmes, elle a toujours été difficile à peu près partout. Maintenant, il y a quand même eu aussi des femmes qui ont été des reines, sans forcément se faire violer pour ça, qui ont effectivement réussi à faire des choses dans la société, qui ont été des scientifiques, qui ont marqué leur époque, même si aujourd'hui on a effacé cela. Un exemple, comme je fais aussi pas mal de fantasy, pour le coup vraiment historique, avec de la vraie histoire dedans. Et un exemple pareil, de cette impasse, c'est donc quand on oublie qu'il y a eu des femmes combattantes, dans plein d'époques, il y a eu des femmes gladiatrices. Et quand on monte des mondes où il y a eu des femmes combattantes chez les Vikings, il y a eu les Nartexen par exemple aussi, les sorcières de la nuit pendant la Seconde Guerre mondiale, s'il y en a qui s'intéressent à l'histoire militaire, qui ne connaissent pas, je vous conseille beaucoup de chercher ça. Voilà, et c'est de sortir aussi de certains préjugés qu'on a dans la tête, qui nous peignent le passé de manière, disons, plus archétypale qu'il n'était vraiment. Et par exemple, quand Stéphane parlait de l'équipement, évidemment il y a l'importance de l'équipement dans l'histoire militaire, mais aussi, quand on s'intéresse à l'histoire militaire, un truc qui marque très vite et qui, je trouve, justement, en plus, quand on remet l'accent sur les personnages, est très intéressant, c'est qu'on peut être l'armée la mieux équipée, avec les plus gros budgets derrière, et pas forcément remporter une bataille, parce qu'il y a aussi autre chose qui joue. Et notamment, dans les têtes, il y a toute une importance des préjugés, il y a une importance des mauvaises décisions, des erreurs humaines, qu'on sous-estime parfois dans une certaine fantaisie, où en gros, c'est comme si on avait... ici, je vous mets armée A qui pèse tant, ici, je vous mets armée B qui pèse tant, A pèse plus lourd, donc A va gagner. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, en matière de décision absolument absurde militaire, la France est un peu un des pays champions du monde. Quand on s'intéresse à l'histoire, à la documentation, je pense qu'il y a deux manières de le faire. Soit chercher dans la documentation que des choses qui vont, aller dans le même sens que nos préjugés, que nos idées préconçues. Ou justement, chercher à découvrir aussi des choses qui ne valideront pas forcément la première vision qu'on avait du monde, la première vision qu'on avait des époques historiques, et s'apercevoir que le monde et le passé est plus complexe que la vision qu'on en avait, et essayer de donner cette complexité dans nos livres. Parce que pour moi, il y a vraiment deux impasses. C'est un Moyen-Âge trop glamour, trop romantique, mais mine de rien aussi, un Moyen-Âge trop unilatéralement sombre, où tout n'est que souffrance, c'est une impasse aussi. Et il y a quelque chose entre les deux, et c'est dans cette complexité humaine-là qu'il y a des histoires intéressantes.
Juste, je voulais rebondir, c'est aussi le problème qu'on a retrouvé sur le steampunk, où en fait, tu as touché un mot tout à l'heure, où on s'est aperçu que sur cette belle époque, on n'a que les femmes avec des belles robes, avec des corsets, et il n'y a pas de gens habillés avec des robes toutes simples. Or, à l'époque, en fait, les femmes, elles avaient souvent trois robes. Une du matin, une de l'après-midi, et éventuellement une du soir, mais c'est tout. Elles n'avaient pas 50 000 robes, elles n'avaient pas les moyens, ça coûtait une blinde d'avoir une robe. Donc c'est un peu aberrant de les voir se changer tout le temps, de les voir, et c'est pas référencé. Voilà, c'est un peu dommage, parce que du coup, quand on rentre dans ces bouquins steampunk, on s'aperçoit finalement ils sont tout le temps tout très bien habillés, avec des jabots, des machins. C'est pas la réalité. Si on creuse un peu dans cette époque là, c'est une époque qui est hyper tourmentée au point de vue politique et au point de vue historique, et on s'aperçoit qu'on est le steampunk, ils sont passés complètement à côté. Ils ont idéalisé cette époque, ils ont fait des trucs qui sont très beaux, hein. C'est vrai que visuellement, dans les descriptions, c'est superbe, mais ça passe à côté. Pour moi, ça passe à côté, parce qu'on est sorti complètement de la réalité, et on parlait tout à l'heure de crédibilité du monde de base, pour qu'on puisse partir sur le fantastique, c'est ce que tu disais. Il faut que le monde réel, enfin le monde de base du livre, il soit crédible. Le problème souvent dans les livres steampunk, c'est que le monde de base, il n'est pas crédible.
C'est une démarche esthétique aussi au départ, le steampunk. Et si on regarde la fantasy, on a aussi au départ une idéalisation du Moyen-Âge et quelques gros clichés qui a évolué en low fantasy et en quelque chose de, qui cherche à montrer un monde plus
réel. Qui a aussi ses propres, encore une fois, qui a quand même développé, notamment dans le monde anglo-saxon, qui est beaucoup plus archétypal pour plein de raisons souvent, qui a développé ses propres clichés aussi. Voilà.
Ceci dit, quand on lit Le Paris des merveilles de Pierre Pével, on se dit, les belles robes, elles vont très bien avec l'univers et c'est aussi une recherche de ne pas vouloir sombrer dans, avoir les pieds dans la boue. Pour reprendre juste un avis que vous partagez tous les deux sur les recherches historiques, moi j'avoue que je ne suis pas du tout historienne, que j'ai des lacunes dans ce domaine-là, j'assume tout simplement, et la fantasy me permet d'imaginer et de créer un univers hors recherche historique. Donc, c'est peut-être une faiblesse, je l'ignore, mais je ne veux pas. Le plaisir, c'est la création et l'invention. Et de pouvoir concevoir un monde qui n'a aucune assise sur un passé historique.
Ouais. Je pense que j'ai entendu, il n'y a pas une semaine, Cassandra O'Donnell qui vend quand même des paquets de livres, dire exactement la même chose et assumer pleinement. C'est pas une faiblesse, c'est simplement qu'il y a différents créneaux, différentes voies en fantasy, et que je pense que c'est important pour capter le public que toutes ces voies soient remplies, soient suivies par des auteurs, et que donc le fait d'être dans le rêve, d'aller dans quelque chose qui est vraiment décroché de la réalité, même si c'est pour justement faire quelque chose qui est un peu idéaliste ou
mais crédible, toujours ouais. Crédible, il faut que ça fonctionne. Tu as tout à fait raison quand tu dis que en fait, je pense qu'un lecteur va décrocher tout de suite s'il y a un détail qui n'est pas crédible ou qui se dit « ça, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas ». Donc la crédibilité, la construction de l'univers doit être cohérente et à tous les moments. C'est ce qui fait qu'on peut se permettre de se passer des codes et de historiques, je pense. Voilà.
Tout à fait. Si je peux me permettre, je trouve que c'est, enfin, l'historique, c'est quelque part un peu une solution de facilité parce que quand on creuse des mondes historiques existants pour soit s'en inspirer pour créer des mondes secondaires, soit pour carrément faire de l'historique, quelque part on a tout sous la main, il n'y a plus qu'à se servir quoi. Alors que mine de rien, quand on crée un monde complètement comme toi, bah voilà, toute la crédibilité à chaque instant c'est que toi qui es la garante, c'est que toi qui dois la créer, donc quelque part c'est plus difficile en fait. Donc voilà, l'historique c'est aussi une solution de facilité. Hein. Et juste, si je peux me permettre de revenir sur un truc que tu as dit sur le steampunk, et je te rejoins pour une partie du steampunk, surtout anglo-saxon, mais pour moi, je vois vraiment une très grosse différence avec le steampunk français, parce que l'un des romans fondateurs déjà du steampunk français, c'est la trilogie, enfin, la trilogie fondatrice, parce que voilà, c'est trois romans. Mais vraiment, un peu l'acte de déclaration de naissance du steampunk français, pour beaucoup, c'est la trilogie de la Lune de Joan Elliott. Je ne sais pas si ça parle à des gens dans la salle. Voilà, très belle réédition chez Mnemos il y a quelques temps, ça se trouve partout, enfin, c'est vachement bien. Et justement, ce que fait Joan Elliott tout de suite par rapport au steampunk anglo-saxon, c'est que dans ses héros, il y a Louise Michel. Louise Michel, ça parle à tout le monde ? Voilà, ok. Voilà, alors Louise Michel, donc institutrice, une des figures phares de la Commune de Paris. Voilà, et bah, Joan Elliott, il pose ça en fait. C'est que nos héros, et aussi dans ses héros, il y a Jules Verne. Donc nos héros, c'est des institutrices révolutionnaires, c'est des écrivains de ce qui s'appelait pas encore de la science-fiction. Et voilà, c'est pas que des gens de la bonne société ou c'est pas que des grands aviateurs de dirigeables, quoi, dans le steampunk français. Et ça, c'est posé dès la trilogie de la Lune. Et qui est suivi dans les mêmes années, où ça, enfin, je sais plus, c'est à peu près en même temps qu'ils ont été écrits, par donc Délus, une chanson d'été de Sabrina Calvo, qui en plus vient d'être réédité aussi dans une superbe édition chez Mnemos. Je n'ai aucune action chez Mnemos, hein, mais. Et pareil, Délus, c'est a fortiori la suite, La Nuit des Labyrinthes. Il y a tout le souvenir de la Commune à Marseille, avec aussi toute la cruauté qu'il y a eu dans la répression de la Commune à Marseille, et en même temps, toute la fantaisie IE, pour le coup, tout le merveilleux et tout l'onirisme dont est capable Sabrina Calvo, qui est une super autrice. Voilà, et ça, c'est vraiment des actes fondateurs de naissance du steampunk français. Bah, pour moi, Floriane, ça s'inscrit aussi complètement dans cette lignée-là. Donc, on a quand même cette différence-là chez nous. Soyons fiers. Pour une fois. Et voilà, ça fait vraiment partie de notre identité en tant que gens.
Elle parle tellement bien des auteurs qu'elle devrait être notre étendard et puis faire la...
Oui,
je pense que tu es notre étendard, le porte-drapeau.
Voilà, donc on a un peu dérivé, désolé.
C'est pas grave, de toute façon, c'est le principe de la table ronde, c'est quand elle vit, c'est encore mieux. c'est dimanche après-midi, on commence un peu à saturer. Je vais juste rebondir sur tout à l'heure, tu parlais du Paris des Merveilles. Ça m'a fait penser, il y a une anthologie qui vient de sortir par Pierre Pével sur le Paris des Merveilles, avec une auteure qui s'appelle Catherine Loiseau à l'intérieur, et qui, elle, fait aussi du steampunk, qui vient de sortir un autre bouquin qui s'appelle Aiden. Et là, c'est un petit bonhomme, le personnage principal, c'est un petit héros, tout mignon, et qui vient des bas-fonds. Voilà, comme quoi on peut...
L'ombre et la lumière, moi j'aime bien, c'est le contraste entre les deux. Si vous lisez Un éclat de givre d'Estelle Fay, qui est un super bouquin, qui est une très belle plume et qui nous met à un Montmartre post-apocalyptique en scène, on a quelque chose qui est à la fois sombre, puisque c'est le futur, mais elle arrive à en faire jaillir vraiment des moments de lumière, beaucoup de beauté, presque une nouvelle civilisation, elle arrive à mettre en lumière la créativité et la beauté de cette nouvelle civilisation qui naît sur les ruines avec des moyens beaucoup plus faibles que maintenant. D'ailleurs, elle commence avec une scène de jazz dans un Montmartre post-apo, donc c'est quand même assez chouette. Quand on parle de l'humanité, on est toujours confronté à ça, à l'ombre et à la lumière, et comme disait Estelle tout à l'heure, les époques sont complexes, c'est pas des archétypes. La vision monolithique du Moyen-Âge, par exemple, comme une époque sombre, est quelque chose qui est un peu révolu, en tout cas du point de vue des historiens. On parlait du statut des femmes. Le statut des femmes au Moyen-Âge, par exemple, est bien meilleur qu'au XIXe siècle et que sous l'Empire romain. Contrairement à ces deux époques, la femme peut posséder ses biens, être chef d'entreprise, châtelaine, seigneur, abbesse et régner sur des domaines terriens énormes, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire dans la nuance, quoi. Mais ce qui est gay aussi, et là c'est du scalpel, c'est quand les personnages eux-mêmes ont en eux l'ombre et la lumière, et quand la lumière de l'humanité, quand de beaux élans humains, de beaux gestes vont surgir de moments précisément sombres, de la boue, ou même de l'ombre des personnages eux-mêmes. Quand ils arrivent à sublimer leur propre faiblesse, leur propre compulsion, leur propre déterminisme pour faire quelque chose d'héroïque ou quelque chose de désintéressé. Et c'est là qu'on peut, avec la fantasy, toucher à quelque chose qui est complètement intemporel et vraiment parler de ce que l'humanité a de meilleur. Et je pense qu'on vit une époque où on a précisément besoin de rappeler ce que l'humanité a de meilleur, parce que dans ce siècle, on a tendance, en tout cas pas mal de médias et malheureusement de plus en plus d'hommes politiques, ont aussi tendance à exalter, à mettre en valeur ce qu'on a de pire, et à perdre de vue ce qui fait la grandeur de l'humanité. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des études qui montrent que ce qui a fait la réussite de l'humanité, c'est la solidarité, plus que la concurrence au sein de l'espèce. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut aussi... On peut faire passer des messages intéressants à travers la fantasy, où on peut, sans faire la morale, juste en racontant une histoire, montrer de... rappeler ce que l'humanité peut avoir de beau et ce qu'elle peut avoir de grand. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer en tant qu'auteur. Je sais que j'ai décidé vraiment d'être écrivain. Bon, j'ai toujours eu envie. Il m'est arrivé de... Ma décision, fondamentalement, revient d'un tragique accident qui m'est arrivé à l'âge de 7 ans. J'ai appris à lire. Et là, j'ai tout de suite envie d'écrire des histoires. Mais le jour où j'ai vraiment décidé d'écrire, c'était le jour où, après avoir décrit une petite vieille qui expliquait qu'elle allait bientôt mourir et qui rassurait les enfants autour d'elle qu'il aimait... en expliquant à quel point c'était normal, naturel, qu'il ne fallait pas être triste, qu'elle avait une belle vie. Et c'est toucher à ce type d'émotion, toucher vraiment à l'essence de l'humanité, moi c'est ça qui m'inspire et qui me donne la plus grande force, la plus grande envie d'écrire.
C'est tellement bien dit. Bon, on est parti en digression, mais pour reprendre ce que tu disais par rapport aux ouvrages d'Estelle, à ses univers, typiquement, on est dans scalpel pour les personnages, truelle pour tout ce que ça remue derrière. Et, voilà. Donc typiquement, tout ton univers est sur ce dipôle. Voilà.
Mais vos trois univers, en fait, moi j'ai eu la chance de vous lire tous les trois, et vous avez le même axe, c'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont hyper ciselés, et derrière vous avez effectivement de temps en temps des grosses rasades qui arrivent, là, des gros trucs comme ça là, qu'on prend plein la tronche, et puis on se dit voilà. J'aime bien la définition, est-ce que tu disais, de ces personnages qui sont ambigus, qui sont à la fois bons et à la fois méchants, à la fois gentils et à la fois torturés. Je pense que c'est ce qui fait la réussite d'un personnage, parce que justement il est à la fois au scalpel et à la fois à la truelle. Estelle?
Oui, disons juste peut-être pour... parce que voilà, donc déjà merci. Et, voilà. Et puis, pour rebondir un peu sur les personnages, ben, de toute manière, oui, un personnage, c'est complexe. Dès qu'un personnage est unidimensionnel, c'est là qu'on a perdu, en fait. Un personnage qui soit le méchant, la vieille, ça c'est ce qu'on voit par exemple dans certains films encore que j'ai vu récemment, les personnages de femmes qui sont là, la vieille, son seul rôle c'est d'être vieille, quoi. Voilà, non mais il y a la fille sexy, son seul rôle c'est d'être la fille sexy. Et voilà, donc on a encore ça qui revient par moments, ou pareil, le méchant, le gentil, je pense que c'est des choses qu'on a largement dépassées pour, dans beaucoup de romans présents ici, là en bas, et c'est cool. Et peut-être aussi pour rebondir sur ce que disait Stéphane, j'ai l'impression que s'il y a une chose que notre époque nous démontre, moment sans doute polémique, désolé, c'est la limite des dystopies, la limite des univers uniquement sombres. Parce que si les dystopies, ça servait de sonnette d'alarme, depuis le temps qu'on en écrit, depuis le temps qu'il y en a qui occupent le devant de la scène, très franchement, on n'en serait pas là, quoi. Et beaucoup de dystopies, même des très grandes, même que j'ai adoré lire, que j'adore lire, qui sont des super bouquins, ils montrent, ou des super films, ils montrent comment un monde peut être complètement déshumanisé, comment l'humanité peut s'en prendre plein la gueule. Mais pour moi, une des limites du genre en général, c'est que voilà, ça montre des hommes au 36e dessous, ça montre des mondes au 36e dessous. Et ça ne dit pas qu'on peut s'en sortir, ou ça ne dit pas qu'on peut essayer de se battre. Et quand même, dans les romans que j'aime et dans ceux que j'essaye d'écrire, je mets aussi du côté des gens qui essayent de faire quelque chose. C'est pas forcément facile, ils vont pas forcément réussir. Mais quand même, je pense qu'il y a trop, on a trop eu, non seulement dans certains livres, mais a fortiori dans le discours médiatique général, cette idée que de toute manière, en gros, sauf à moi d'être né vraiment au bon endroit et encore, il n'y a plus rien qui est possible. Ça a trop infusé par moments dans nos sociétés. Et on a la chance dans la fantasy d'être dans un genre épique, c'est-à-dire un genre avec des combats, un genre avec des combats aussi bien avec des armes, avec des épées, mais aussi dans les têtes, dans les pensées, dans les cultures. Donc voilà, faisons des héros qui se battent et qui peut-être ont une chance de faire changer les choses pour dire oui, c'est pas forcément possible, on va pas forcément y arriver, mais au moins on va pas se laisser écraser sans combattre. Et peut-être même on peut changer les choses.
Je veux faire juste une petite pause avant, technique, pour dire que quand on rebondit beaucoup dans cette table ronde, je propose que chaque fois qu'un auteur, tu allais le faire, chaque fois qu'un auteur dit je voudrais rebondir, la salle fasse je going. On y va?
Allez, on mange que je going. En fait, dans Hunger Games, qui est une dystopie, c'est tout à fait ça. En fait, on parle d'un personnage basique qui prend les armes et qui se révolte, tu vois.
Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, par exemple, Hunger Games, c'est considéré comme du young adulte, donc comme, voilà, c'est quand même souvent considéré comme moins sérieux que des œuvres où juste on a des personnages qui s'en prennent plein la gueule et qui souffrent et puis s'émarrent, quoi. Et voilà, et complètement. Mais je suis tout à fait d'accord. Sinon, c'est... Mais en même temps, c'est bien aussi qu'on ne soit pas dans des genres complètement respectables. J'aime bien.
Je voudrais rebondir sur ce que disait Estelle. Ils sont attentifs. Donc, en effet, sur ce que vous dites toutes les deux, d'ailleurs, donc je rebondis sur ce que vous dites toutes les deux. Donc, c'est que effectivement, le côté révolte. Inutile de vous citer un titre d'Estelle Fay, La révolte de Bohème. Voilà. C'est quelque chose qui. Il y a de plus en plus d'engagement dans la fantasy, curieusement. Alors, on n'est pas dans l'utopie, mais on est malgré tout dans la révolte et dans l'envie de changer les choses. Et il y a de plus en plus d'exemples en fantasy, et ben, en particulier francophone. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit française, y aurait-il un nom français dans la salle? C'est un jeu concours, devine la nationalité de Stéphane Plateau. Par exemple, si vous lisez L'enfant de poussière de Patrick Dunay, que je recommande très chaudement, une fantasy très réaliste, très les pieds dans la boue, extrêmement détaillée et précise sur les modes de vie, on a vraiment la fantasy sociale.
Je vais juste rebondir, on a juste oublié de vous dire que pour venir à la table ronde, il fallait un carnet et un stylo pour noter tous les noms de tous les auteurs qui sont cités. Non, désolé, on a oublié.
Voilà. Donc Estelle fait vraiment partie des piliers de ce qu'on appellerait une fantasy sociale ou une fantasy de révolte. Patrick Dulnay en fait partie, j'en fais partie aussi dans mes tomes, enfin peut-être pas dans le premier tome, mais dans les suivants largement. Et je pense que de plus en plus d'auteurs ont ce côté-là. C'est la même chose avec les combats féministes et combats pour les minorités. On retrouve de plus en plus cette dimension dans un milieu littéraire qui n'est pas trop droite en général. En tout cas, très progressif.
Pour un genre mineur, on cartonne quand même.
Et on a un genre vivant. Je veux dire, en littérature blanche, les gens n'ont pas autant la chance que nous de se rencontrer. Mais nous, on reste un assez petit milieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très gai. D'ailleurs, vous avez pu le voir, on se connaît les uns les autres. On se lit les uns les autres. On adore se lire les uns les autres. Voilà, on ne déteste pas trop. Même si on trouve sa voisine de droite absolument géniale, on est jaloux, voilà, on est très envieux, mais on la déteste pas quand même parce qu'on est très content de la lire et de passer un bon moment.
Il y a certains qui ont une grosse voix de barbe ici et pas d'autres. Voilà. Je sais pas, il y en a qui ont entendu les lectures tout à l'heure. Oui. Stéphane, en lecture, je conseille.
En lecture musicale.
Ouais. En lecture musicale, il est tellement. Moi, j'étais renversée, quoi. J'étais scotchée, j'ai pas réussi à décrocher et tu m'as emmenée dans un autre monde, carrément. J'ai oublié où j'étais. La musique qui t'entraîne dans ses rythmes, la musique des mots, c'était un moment magique. Voilà.
C'est chouette, c'est vrai, quand le texte peut rebondir sur la musique. Merci. Et donc on se connaît, on échange beaucoup, et donc il y a des courants qui se créent, il y a des dynamiques qui se créent, chacun tire les autres vers le haut, dans un domaine ou un autre, et il y a des tas de collègues dont je peux dire il est très fort dans ça, et j'admire dans tel axe précis ou dans tel talent précis qui fait partie du métier d'écrivain. On a tous nos forces particulières, et ça permet vraiment une émulation vers le haut, et aussi l'envie de traiter des tels, et ça rend notre imaginaire très très exploratoire. On explore énormément de nouvelles voies. Il y a des milliards de choses à faire en fantasy. Pendant les années 80 et 90, elle est beaucoup restée enfermée dans un canevas manichéen, l'élu qui va sauver le monde, et le champion des forces du bien qui va affronter les forces du mal de retour. On est en train de faire exploser, depuis il y a 15-20 ans, de faire exploser complètement ces schémas, et encore des milliers de choses à faire.
De temps en temps, j'entends sur les salons des gens me dire « Ah non, mais la fantasy, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est des petits elfes, des petits nains. » Et on a la preuve dans vos trois univers, où en fait, on n'a pas du tout ça. On a vraiment des trucs qui partent complètement ailleurs.
C'est ça, c'est encore la faute des nains.
Ça, c'est encore la faute des nains. Ouais, mais bon, pour un buveur de bière, les nains, ça va bien.
On a un peu, je pense, débordé du thème de Scalpel et Truelle pour vous montrer sans doute l'envers du décor qui est du côté des auteurs. Mais je pense qu'en venant sur un salon, c'est aussi ce qui est demandé, de voir qui sont ces personnes qui écrivent. Moi, je peux vous garantir que j'ai découvert un monde de riche. Et avec, j'ai obtenu de l'aide de mes amis auteurs, des conseils, et je peux vous garantir que c'est que du bonheur de pouvoir côtoyer ce milieu qui est si petit, hein, tu disais. Alors, je pensais que c'était pareil dans le milieu de l'édition, mais c'est peut-être finalement restreint au genre de la SFF.
Est-ce que je peux rebondir ?
Oui,
je t'en prie. Sur deux trucs à la fois. Et sur le milieu en général et sur ce que disait Stéphane, donc moi ayant un doigt de pied, un gros orteil, enfin un bout de moi dans un autre milieu qui est le milieu audiovisuel, je vois vraiment la différence entre notre milieu où il y a une énorme solidarité et en fait j'ai même pas l'impression, enfin je sais pas ce que vous en pensez, quand on est en festival, quand on est en salon, il n'y a pas une barrière genre mur de verre entre d'un côté les auteurs et de l'autre les lecteurs. On est tous des passionnés, on fait tous tourner des idées, on fait tous tourner des histoires. C'est avant tout ça qui nous rassemble. Et il n'y a pas des questions de statut que je vois beaucoup dans d'autres milieux, donc à fortiori du côté audiovisuel. Et il n'y a pas... milieu audiovisuel du genre en France, c'est beaucoup d'économie de prototypes, beaucoup de gens qui veulent être solidaires, mais qui de fait donc avancent chacun un peu de leur côté, donc sont tous en compétition les uns contre les autres. Et pour être honnête, bon après il y a aussi... beaucoup d'enjeux qui sont différents, mais mine de rien, j'ai pas l'impression que la compétition acharnée, ça leur réussisse tant que ça. Non. Et ça réussisse tant que ça au cinéma français d'imaginaire. Alors que peut-être aussi que cette quand même vraiment grande solidarité qu'il y a dans le milieu, où on soutient tous les uns les autres, on se conseille, etc., ça nous permet d'avoir un vrai milieu qui existe, avec plein d'histoires qui naissent, avec plein de courants qui naissent, comme tu disais. Donc oui, en plus, la solidarité, c'est pas juste donc un rêve d'idéaliste, c'est que objectivement, quand on le voit en action, ça marche mieux que l'inverse, quoi. Et vraiment, donc...
Est-ce qu'il y a un cinéma français de la fantasy ?
Alors, il y a un cinéma français qui est dit de genre, c'est un peu l'équivalent des littératures de l'imaginaire, mais qui a plein de problèmes, aussi structurels, ça serait beaucoup trop long à évoquer, mais qui a aussi vraiment une ambiance beaucoup moins, comment dire, solidaire, et qu'on peut avoir, nous. Et... c'est plus de l'imaginaire, mais comme il y a notamment beaucoup qui sont pas hyper bons, je suis désolée. Après, il y a quelques très grandes réussites de réalisateurs français de fantastique. Alors notamment, bah, dans mes gros coups de cœur ces dernières années, tout cinéma confondu, il y a Cold Skin de Xavier Jeans, qui est une adaptation donc de La pauvre proie de Sanchez Pignol, qui est un roman fantastique vraiment pas mal, qui a donné un film sublimissime. Mais par exemple, donc, pour en avoir discuté avec le réalisateur, c'est un projet qu'il a essayé de monter en France plein de fois, et en gros, il n'a jamais réussi, et il est allé le monter donc, dans une coproduction internationale. Et entre des Anglais et des Espagnols, si ma mémoire est bonne. Donc, et c'est un film sublime, mais qui est tourné en anglais, avec un casting international, avec des moyens donc, qui ne sont pas français. Et pourtant, c'est un des meilleurs réals français qu'on ait, quoi. Donc, et quand on voit que même lui, il n'arrive pas forcément à faire ce genre de film qui est somptueux, objectivement, et qui en plus est à la fois un super bon film avec plein de suspense, des visions vraiment oniriques, mais aussi un très beau film sur la différence de rapport à l'autre et tout. Et avec des super scènes d'action. Et des scènes d'action semi-nocturnes, mais vachement bien filmées et tout. Enfin, c'est génial. Donc, Cold Skin de Xavier Jeans, une tuerie. Disponible en DVD avec une jaquette qui n'est absolument pas donc représentative de l'intérieur du film. Je préviens aussi. La jaquette n'est pas du tout au niveau du film. Voilà. Mais donc il y a quelques. Mais à chaque fois, c'est de l'économie de prototype. À chaque fois, c'est une étoile filante. Alors que nous, on a un milieu qui existe. Et ça, c'est vraiment précieux. Et voilà, c'est à défendre aussi.
Il était rejeté en France, heureusement qu'il a su rebondir à l'étranger. Enfin, en résumé, tout ça pour dire, le milieu de l'imaginaire francophone, c'est « Prête-moi ton scalpel », oui, volontiers. Le cinéma, la littérature blanche, c'est « Ma truelle dans ta gueule ».
Mais après, il y a aussi, alors, après, voilà, il y a quand même des gens qui essayent vraiment de construire des choses, mais dans des milieux, dans des conditions beaucoup plus difficiles, hein, parce que je veux surtout pas, bah, justement, on a dit de, voilà, de pas faire donc de manichéisme, et je veux pas faire de manichéisme là non plus, mais c'est vrai que on est vraiment, je pense, dans le milieu de l'imaginaire aujourd'hui, l'exemple même de la solidarité en action et que la solidarité, ça marche. Ah, et voilà, ça c'est le deuxième truc sur lequel je vais rebondir, ça y est, j'en suis. Bon, ouais, c'est ce que tu disais, sur ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs, sur le fait qu'on a vraiment plein de choses qui partent partout, qu'on a une littérature très libre. Et en fait, moi, je pensais pas du tout être autrice de romans à la base, pour plein de raisons. Et donc, il y a 20 ans maintenant, suite à un pari contre mon frère, donc histoire, je me suis retrouvée à faire des mémoires sur la fantaisie à la Sorbonne. Et en fait, il y a 20 ans, y compris en France, il y avait beaucoup de gens, dans les gens que j'ai interviewés, dans les gens que j'ai croisés, qui étaient « Ah non, la fantaisie, c'est ça, c'est telle et telle case, il ne faut surtout pas en sortir. » Alors, il y avait de la fantaisie française qui commençait déjà à en sortir, notamment la série des Crépusculaires de Mathieu Gaboré, qui a été des premières à vraiment faire exister le genre en tant que genre en France. Pas le premier truc de fantaisie en France, parce qu'il s'en est écrit avant, mais là, il y avait vraiment déjà un effet d'école qui commençait, notamment autour des Crépusculaires. Mais voilà, il y a 20 ans, j'étais tombée sur beaucoup de gens qui disaient « Ah non, mais ça, faut pas le faire en fantaisie. » Ça en fantaisie tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire. Alors que globalement on est le genre le plus libre au monde. On n'a que les contraintes qu'on se pose nous-mêmes. Et là on commence vraiment à sortir de attention, ça c'est défendu, mais selon quels critères? C'est comme si cette liberté faisait peur aux gens. Donc il y a 20 ans c'était vraiment le cas, heureusement on en sort. Maintenant il y a encore quand même quelques vieux dans leur tête, hein, pas forcément dans leurs âges, mais vieux lecteurs, qui quand on dit qu'on fait de la fantaisie et qu'on va un peu dans certains endroits qui sont pas les leurs. Rechigne un peu, enfin, donc, bah, sur les Seigneurs de Bohème, donc, voilà, il y a eu plein de choses des lecteurs, c'est super, mais il y a aussi eu une vraie polémique de la part d'une partie du lectorat qui disait, en gros, avec la dark fantasy, on peut pas faire ça ou ça ou ça. Eh ben, si, on peut.
Ah, bah, si.
Voilà.
C'est juste pour dire que le cinéma aussi, des fois, joue un peu. C'est le premier contact pour les gens avec des histoires de genre, comme dans la science-fiction. On a beau avoir un côté un alien et un Star Wars pour rejoindre le côté dystopique et un peu plus numérique, on va dire. Pour des gens, la SF ou la fantasy, non, j'aime pas, c'est que des nains, c'est que des. On n'a pas le sentiment pour eux qu'il y ait une dimension sociale, humaine. Ou...
Alors, après, il y a un cinéma vraiment de genre qui va beaucoup plus loin que ça. Certains qui commencent à être un peu connus, bah, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Le Guerrier Silencieux de Winnie Griffin. Bon, ça commence à être connu, mais voilà, mais vraiment des aficionados. Mine de rien, je trouve que le boulot quand même qu'a fait Jackson sur Le Seigneur des Anneaux va largement au-delà de ce qui existait avant. Moi, je suis partie de la génération qui a vu Donjons et Dragons, le film. Et c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque, voilà. Et après, on avait honte d'aimer la fantasy auprès de tous nos potes qui nous disaient « Non mais regarde, quoi, c'est ça ce que t'aimes ». C'était des moments difficiles. Et au moins, déjà, il y a vraiment une volonté de faire... d'un travail de décor, de costume, de jeu d'acteur incroyable qu'a fait Jackson dans Le Seigneur des Anneaux, qui a vraiment poussé les choses, enfin lui et son équipe, ils ont poussé les choses à un niveau qui n'était pas encore atteint.
Puis les moments shakespeariens, vraiment.
Ouais. Et il y a maintenant aussi plein de choses qui existent, mais qui sont... Bah, le cinéma, il y a par exemple aussi plein de soucis de distribution pour voir du cinéma de genre en France, parce qu'il y a une nouvelle école anglaise qui est super intéressante du cinéma de genre, mais qui est quasi impossible à voir en dehors des festivals. Là aussi, j'ai vu un film polonais, il y a 15 jours, qui est une tuerie absolue sur la fin du paganisme sur une île paumée. Et c'est génial. Ça s'appelle The Mute. Si vous tombez dessus, pour le titre international, c'est The Mute. Mais pareil, c'est le genre de film qui passe deux fois dans un festival, deux fois dans un autre, quoi. Donc il y a des choses super intéressantes qui se passent au niveau du cinéma et de l'audiovisuel, mais on a du mal à le voir.
Le cinéma d'horreur, on a toute l'emprise du, on va dire, Hollywood, par exemple, qui, du coup, c'est, qui propage le plus, hein, on appelle le cinéma de genre, entre guillemets, en France, grand public, ben, bien diffusé largement, on aura de la tube à la radio sur les affiches, il faut aller le voir absolument, et du coup, comme il y a, enfin, je trouve qu'il y a une prise d'otage, il faut absolument du spectaculaire, de la scène et tout, c'est comme l'horreur dans le cinéma américain, il y a des codes comme le jumpscare, par exemple, c'est pour en avoir dans le cahier des charges. Pareil, il faut avoir une explosion, il faut une étoile de la mort qui explose dans la science-fiction, enfin, des espèces de choses comme ça qui font que les gens ils disent « ça, je ne vais pas le voir parce que je voudrais une histoire d'amour, je voudrais... » alors que ça existe pourtant, mais qu'il y ait une espèce de couche qui est un peu... le grand public, je veux dire, les gens qui ne sont pas...
Disons, c'est plus compliqué, vous le dites, dès que je croise trop le micro, mais comme ça parle de cinoche, je peux... Voilà. Moi, c'est plus compliqué parce que quand même, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas oublier quand on parle, y compris de mainstream américain. C'est que notamment le cinéma de genre américain, et a fortiori donc le ciné d'horreur ou de zombies, c'est aussi un cinéma qui a beaucoup fait bouger les codes, notamment donc en matière de représentation. Et par exemple, on parlait d'Alien. Alien, c'est quand même premier film avec une femme au premier plan dont les rôles à la base étaient écrits non-genrés en fait. C'est-à-dire c'est une femme qui n'a pas été écrite pour être avant tout une femme. C'est des rôles non-genrés, il y en a un qui est devenu une femme, mais c'était pas la femme, entre guillemets. Ou par exemple, mine de rien, donc le premier film de zombies... donc le premier zombie de... ah ça y est je perds tous les noms, mais le premier rôle donc le premier film de zombie noir et blanc de Romero, bien sûr, donc le premier zombie de Romero, il y a par exemple un acteur noir qui est pas là pour être l'acteur noir de service, donc c'est vraiment un cinéma qui a beaucoup fait bouger les choses. Aussi c'est un cinéma qui a donné vraiment une représentation de gens qui étaient pas forcément dans les bonnes couches de la société sans qu'ils aient comme seul rôle à l'écran d'être pauvres. Avec, ben, par exemple, bon, y a des cas extrêmes comme Street Trash, il y a aussi des expérimentations sociales comme Society et tout, mais il y a vraiment eu cette idée de faire arriver des gens qui avaient un vrai rôle, qui n'était pas juste être une minorité à l'écran, ou être un pauvre à l'écran, ou être une femme à l'écran. Et ça, le cinéma de genre a fait, et fait encore beaucoup pour ça quand même.
On peut citer le premier baiser interracial dans Star Trek aussi.
Voilà, la télé de genre, enfin, il y a vraiment, pour le coup... Il y a évidemment tous les problèmes donc de distribution, donc tous les problèmes de certains codes, mais dans un certain cinéma d'horreur notamment arrive à sortir quand même pas mal en jouant sur le fait que en gros c'était déjà l'écurie Corman dans les années 70 qui était du moment que ça coûtait pas trop cher et qu'il y avait du sang et qu'il y avait des explosions, derrière on pouvait mettre à peu près ce qu'on voulait comme discours. Et ça a donné aussi, mine de rien, le cinéma genre des réalisateurs comme Stuart Gordon, qui a commencé en faisant Réanimateur, et les adaptations les plus goraces de Lovecraft, si ça parle à quelqu'un, et qui, mine de rien, maintenant, fait des films comme Stuck, qui sont à la fois des énormes suspenses, mais qui, en matière de critique sociale, sont d'une violence et d'une virulence incroyable et d'une pertinence incroyable, quoi. Et voilà, et ça, c'est aussi des choses qui viennent du genre.
Labyrinthe de Pan, qui met histoire et fantastique.
Voilà, complètement, Del Toro aussi. Ouais.
Terminator 2, c'est quand même la conclusion à un moment dans le film, elle le dit elle-même, Sarah Connor, le meilleur des pères, ça va être une machine, alors qu'elle a essayé tout un tas de pères, des modèles virils, forts, pour vraiment faire de son fils un leader, c'est la machine qui ne boira jamais, ne sera jamais violent avec lui, enfin je veux dire, des messages assez...
message assez positif. Je voudrais terminer avec une question. On va essayer de revenir sur le plan de base de la table ronde.
On en
avait un, mais
on a un peu dérivé.
On a un petit peu dérivé, mais c'est pas grave. Au moins, c'était vivant. C'est bien un point commun que j'ai retrouvé dans les livres que j'ai lus, c'est que vous avez tous un schéma narratif où il y a vraiment une part de suspense, une part d'avancée, une part d'aventure. Et on retrouve tous les plans. À un moment donné, on a des parties qui sont plus calmes avec des scènes qui sont un petit peu cocooning. On avance un petit peu tout d'un coup avec des personnages qui sont mis en danger. On va sur du combat, on revient sur des choses un peu plus... Et on avance comme ça dans l'histoire, et quand on arrive au bout du livre, on se dit « Ah ben merde, il n'y a plus rien derrière. Ah ben c'est bien, c'est une série, il y en a un autre. » Voilà. Est-ce que pour vous, un synopsis, c'est aussi quelque chose qui va se ciseler, qui va se travailler au scalpel, ou est-ce qu'il vous arrive de partir complètement et de vous laisser emporter, et de vous laisser...
Une discussion qu'on a eue au déjeuner avec notre amie ici présente qui parle si bien sur le synopsis et que j'ai retenu parce que l'écriture du synopsis, sérieusement, ça n'a aucun rapport avec l'écriture d'un roman. Aucun rapport. Parce que vous écrivez un roman, c'est un pavé, c'est un monde, c'est un univers, c'est des personnages. Comment, pour moi, il fallait les résumer en un quart de page. Waouh, mais je ne sais pas faire ça. En fait, l'écriture du synopsis... C'est une écriture tout à fait à part pour laquelle on peut suivre même des ateliers et on apprend à faire ça. Sauf qu'on a Estelle qui est à côté et qui m'a dit à midi, mais non, en fait, le synopsis, il faut juste que tu abordes ça comme dans une conversation et tu dis quelle histoire tu veux raconter, où tu parles de tes personnages et où tu racontes la fin. Je me suis dit, ah bon, mais ça a l'air vachement simple. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça et effectivement, on perd beaucoup au passage. Mais il faut juste réussir, dans un synopsis, à livrer l'ADN du roman. Hein, c'est bien, est-ce que j'ai bien retenu ?
En gros, oui, pour moi, il y a deux sortes de synopsis. C'est-à-dire, il y a le synopsis qu'on fait quand on a besoin dans le boulot pour présenter son roman, par exemple, quand il n'est pas écrit ou quand il est écrit à un éditeur. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une masse de discussion. Voilà l'histoire que je te présente. Voilà quels sont les personnages, voilà quel est vraiment son ADN, son identité, voilà quelle est sa fin. Et là, il faut mettre une fin, et oui, ça peut être super frustrant au début, mais effectivement, voilà, quand un éditeur vous demande un synopsis, il veut la fin de l'histoire. Et après, il y a la cuisine interne de chaque auteur. Et la cuisine interne de chaque auteur, ben, c'est soit vous faites un canevas ou un synopsis de votre histoire. Je connais des auteurs qui font du synopsis, mais même scène à scène, quoi, qui ont toutes leurs scènes en synopsis pour pouvoir les faire. Donc, et puis, il y en a qui font des canevas très lâches de leur histoire. Il y en a qui en font pas du tout. Moi, ça dépend des romans. Quand je fais un synopsis, de toute manière, pour moi, pour mon boulot, je ne le suis pas. Quand je présente un synopsis à un éditeur, c'est avant d'avoir écrit le livre en général, et mes éditeurs savent qu'il y a des variations. Voilà, ils savent que de toute manière, il y a des variations plus ou moins grandes qui sont possibles. Et voire même, bah, donc, Les Seigneurs de Beaune, au départ, c'était un unitaire. C'était une histoire complète. Et puis après, on en a fait un deuxième. Et là, pour le coup, sur le deuxième, je suis partie qu'avec des questions. Bon, je connaissais mes personnages, je connaissais mon univers, mais je suis juste partie avec deux questions. Qu'est-ce qui se passe après la fin des histoires ? Après que les gentils ont gagné avec beaucoup de guillemets ? Et que vont devenir mes personnages quand du temps a passé ? Comment une nouvelle génération qui arrive va voir les héros de l'ancien temps ? Je suis partie avec ces questions-là, et vraiment, l'histoire, elle s'est construite au fur et à mesure avec ces questions-là. Voilà, et là, pour le coup, c'était... un saut dans le vide, mais de toute manière, j'aime bien quand j'écris des romans qui est une partie de saut dans le vide, une partie où je ne sais pas où je vais aller. Parce que déjà, si tout est calé à la base, moi, ça ne m'intéresse pas et j'ai surtout l'impression que ça ne vit pas. Et qu'il faut qu'il y ait ce petit côté défi, qu'il faut qu'il y ait quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre pour qu'il y ait ce trac-là qui me fasse bouger. C'est ça qui va faire que mon histoire, elle va être vivante. Après, plus j'avance, plus je parle à plein d'auteurs. On a la chance de pouvoir le faire dans ce milieu. Déjà, je ne croyais pas aux méthodes d'écriture universelles avant. Mais alors maintenant, j'y crois vraiment plus, quoi.
Personnellement, je suis obligé de mettre un bon coup de scalpel. Le synopsis, il était très bien écrit. C'est ce que je fais quand je parle aux gens, quand je présente mon livre assis à ma table de dédicace, que je ferai encore un quart d'heure avant de reprendre la main. Par contre, au niveau du scénario, je fais partie de ceux qui écrivent scène à scène le synopsis de chaque scène, parce que j'ai une intrigue qui est développée sur 4 tomes, peut-être même 5, et qui est assez complexe parce qu'on entremêle plusieurs niveaux de lecture, puisqu'on a le récit de cette expédition dans le Grand Nord, dans la forêt boréale, avec ces hommes qui remontent le fleuve, et puis dans le cours du voyage, il y a les personnages à bord qui se racontent, et on a des récits dans le récit. Et ces récits comportent des pièces du puzzle de l'intrigue principale. Et en plus de ça, ils contiennent aussi les éléments du world building, du monde. Et donc, dans quel ordre les choses sont racontées, ça peut avoir de l'importance, parce qu'on entrecoupe les chapitres de récit de vie avec les chapitres du premier niveau du récit. Parfois, l'information, une information du récit de vie, de tel chapitre du récit de vie, du sixième chapitre du récit de vie, va s'appuyer sur quelque chose qui a été énoncé, ou sur une info de world building qui était énoncée dans le cinquième chapitre du récit au premier niveau. Donc, c'est assez compliqué. Par contre, comme tout le monde, j'ai pas envie de me laisser enfermer jusqu'au bout. Donc, il y a des choses que je sais aussi jusqu'à la fin du récit. Aussi, quand on travaille sur cinq tomes, si on les fait pas avec une vision globale sur des axes forts, sur les axes principaux, on court le risque de s'égarer, d'avoir des digressions ou d'avoir un côté répétitif. Si on travaille pas, si on travaille tome après tome, on risque qu'ils soient pas assez connectés entre eux et que le plan d'ensemble n'apparaisse pas. Donc là, j'ai un peu la nécessité de travailler de façon plus précise. Par contre, je garde des possibilités ouvertes. Un tel va mourir ou pas. Ça va être résolu comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et je verrai bien. Je verrai ce qui me paraît le plus beau, le plus approprié à ce moment-là, ou même carrément, les personnages vont m'échapper. Ça sera encore autre chose, et ça c'est très bien, parce que quand les personnages vous échappent, c'est qu'ils ont pris leur propre vie.
Exactement, la plupart du temps, on prévoit un fil conducteur dans l'histoire, et le fait est que les personnages vous échappent complètement et vous êtes obligés de les suivre et l'histoire prend un tournant que vous n'attendiez pas et vous vous retrouvez confronté à un nœud. Oh mon Dieu, vous en avez connu des nœuds sur des histoires, comment dénouer ça? Et c'est ce qui fait justement la richesse de l'écriture, de la conception, de la création d'un monde, d'un univers et de personnages. Voilà.
C'est peut-être qu'il est très vivant justement ce personnage et qu'il mérite qu'on lui raconte son histoire.
Exactement.
Si je peux rebondir un tout petit peu, merci. Sur ce qu'a dit Stéphane, c'est, disons, pour en avoir aussi parlé avec justement pas mal d'auteurs, j'ai l'impression, il y a juste un point sur lequel je nuancerai ce que tu as dit, c'est que le fait d'être très carré dans son sinon ou pas, c'est vraiment une question vraiment de méthode personnelle, mais c'est même pas une question de complexité du monde, parce que pour le coup, ben, ce que je vois moi dans les mondes les plus complexes, c'est donc la série Bohème. Et le deuxième qui était vraiment pas prévu, où donc il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent, le passé qui s'entrecroise avec le présent et tout. Mais c'est quelque chose que j'ai appris justement de scénariste polar en télé. C'est que par moment, si on veut, on peut aussi faire confiance à son histoire et se dire que même si on n'a pas tout préparé en amont, notre histoire va au final retomber sur ses pattes. Vraiment. Et que même quand on se lance dans l'inconnu, l'histoire, même si elle est complexe, même si ça doit être un truc très cadré, on peut se lancer dans l'inconnu. Et notre histoire peut retomber sur ses pattes, qu'il faut aussi lui faire confiance. Et ça peut être une méthode de travail aussi pour les histoires complexes. Donc s'il y en a qui veulent écrire dans la salle, qui ont des sagas à plusieurs voix et tout, mais qui ne sont absolument pas des fans du synopsis traditionnel, ça ne doit pas vous empêcher d'y aller, quoi.
En gros, voilà. C'est très important de garder une part de liberté, même si vous suivez votre route. Donc regardez les constellations, regardez les étoiles que vous voulez suivre, suivez-les, et puis laissez les vagues vous porter.
Merci. En conclusion, on va dire que finalement, la fantaisie, ce n'est ni à la truelle, ni au scalpel, mais un peu des deux. Je vous remercie d'être venu.